Votre grand témoin ce matin, Michel Saville, publie les nouveaux enjeux de la logistique chez Odile Jacob.
Oui, avec le retour au pouvoir de Donald Trump, se profile un bouleversement du commerce mondial. Certains secteurs sont en ébullition, comme l'industrie automobile qui a rendez-vous cette semaine avec Ursula von der Leyen à l'échelle européenne pour un plan stratégique de plusieurs mois. On sait que ce secteur est pris en tenaille entre la concurrence chinoise et la perspective de l'augmentation des droits de douane aux États-Unis. Il y a un autre secteur dont on parle beaucoup moins et qui pourtant est extrêmement capital, tout à fait essentiel. C'est comme l'électricité. Si on ne l'avait pas, eh bien, on serait tout de suite en panne et plongé dans l'immobilisme total. C'est la logistique. On ne pourrait pas recevoir à son domicile, par exemple, les produits que vous commandez en un clic. Et cela de plus en plus vite. La logistique détermine l'ensemble de l'économie et du commerce planétaire. Elle consiste à déplacer dans le temps et dans l'espace, c'est le stockage et le transport, qu'il soit aérien, maritime ou terrestre. On a besoin d'une réflexion sur le sujet. L'Europe est plutôt bien armée en la matière, mais quid maintenant de l'avenir et quelle stratégie ? Michel Saville, professeur émérite à l'École nationale des ponts et chaussées et à l'École d'urbanisme de Paris, il dirige aussi l'Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe, l'OPSTE. Il publie chez Odile Jacob les nouveaux enjeux de la logistique. Bonjour Michel Saville.
Bonjour.
Il paraît que tout le monde a un avis sur le sujet.
C'est vrai, quand on discute avec des amis, personne n'a une idée précise sur la manière de fabriquer de la sauce tomate ou de l'acide chlorhydrique. Mais sur la façon de fabriquer du transport de marchandises, on a tous une opinion. En général, on dit qu'il n'y a qu'à mettre les camions sur les trains, par exemple. Ce qui montre bien que ça concerne les gens, ne serait-ce que comme usagers de la route. On voit des camions, parfois on en trouve le nombre trop grand et la pollution trop forte. Voilà, donc on a tous un avis, bon ou mauvais, amateur ou expert, sur la logistique qui fait partie de notre vie quotidienne.
Et les camions sur les trains, alors, c'est une bonne idée ?
C'est une bonne idée quand c'est possible, et techniquement et économiquement. Mais par exemple, il y a un certain nombre de chiffres basiques qui sont peu connus. La moitié des marchandises transportées en France et aussi en Europe parcourent moins de 50 km. Je parle d'un trajet unique, non pas de la chaîne qui, de transport en transport, peut vous faire traverser le monde entier. Pour 50 km, vous n'allez pas faire 20 km pour aller à une gare, faire un transfert sur le train, faire 40 km de train, nouveau transfert et 10 km de camion pour finir. Donc à l'évidence, la plupart des flux, ceux qu'on voit sous nos yeux, sont de la compétence de la route. Pour autant, il y a aussi, et bien sûr, du transport à longue distance. Et là, utiliser mieux le chemin de fer ou la voie d'eau quand elle existe, évidemment, c'est une bonne question.
Chaque fois qu'il y a ce flux qui est interrompu, on parle de rupture de charge.
Non, la rupture de charge, c'est pas tout à fait ça. Dans notre jargon, c'est quand on change de mode de transport. Typiquement, quand un conteneur il est apporté par camion à un port maritime, il y a une rupture de charge en ce qu'on le décharge du camion et on le charge sur le bateau. Par contre, ce dont vous parlez, je pense, c'est la rupture d'approvisionnement. C'est l'usine qui ne reçoit pas les pièces ou c'est le supermarché qui n'a pas de yaourt. Là, effectivement, c'est une rupture d'approvisionnement. C'est souvent, ça peut être une panne logistique. Et c'est ce jour-là qu'on se rend compte que la logistique, c'est vital.
C'est 10% de l'économie française.
Voilà, c'est un ordre de grandeur, absolument. Et environ 2 millions d'emplois directs.
Et on manque de 400 000 chauffeurs routiers.
Paraît-il, et ça risque de s'aggraver à l'échelle européenne, hein, pas en France, bien sûr. Mais en France, on en manque d'une bonne trentaine de milliers quand même. C'est souvent une population masculine, presque exclusivement, vieillissante, donc qui va prendre sa retraite, peu diplômée, et les entreprises se plaignent d'avoir beaucoup de mal à recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Et elles disent, on manque de main-d'œuvre compétente, ce à quoi les syndicats européens ont fait un manifeste lors des dernières élections européennes, ils disent, on manque pas de main-d'œuvre compétente, on manque de jobs décents. Donc il y a un problème effectivement d'attrait du métier, conditions de travail, rémunération, perspective de carrière. Donc il y a un problème d'emploi et de compétences, et donc de formation aussi, je suis prof, dans tous les métiers logistiques, à tous les niveaux de compétences.
Quelle est la part, Michel Saville, entre l'aérien, le terrestre et le maritime pour le commerce mondial ?
Alors, le transport international, alors le mondial, il est continental ou intercontinental. Tant qu'il y a de la terre, on peut faire des transports terrestres. Mais entre l'Europe et l'Amérique, ou entre l'Asie et l'Amérique, il y a des océans à franchir. Donc la question n'est pas la même. Mais le transport maritime, à l'échelle internationale, et pour ce qui est du transport international, non pas interne au pays, transporte, dit-on, environ 80% des marchandises en poids. Le transport terrestre, il est majoritairement routier, mais avec des proportions variables. Les États-Unis, par exemple, ont une part de fret ferroviaire très supérieure à la moyenne européenne. De même pour la Russie, où, parce que la géographie, l'histoire l'explique. Quant au transport aérien, c'est intéressant, parce qu'en termes de tonnage, il est presque marginal, je ne dirais pas négligeable.
5%.
Moins de 1% des tonnages.
Moins de 1%.
Ah oui. En revanche, 30% de la valeur, si on compte en dollars, c'est des produits très chers, de luxe, urgents, des médicaments, du high-tech, etc. Et ça aussi, c'est un flux minoritaire, mais également indispensable au fonctionnement de la machine. Donc il y a plusieurs modes de transport, ils sont à la fois en concurrence dans certains cas, et aussi complémentaires.
En quoi le Covid a-t-il marqué un changement d'époque ?
Ah ben, en quoi ? D'abord, les citoyens ont pris conscience des problèmes de l'approvisionnement. Il a suffi qu'une usine en Chine soit bloquée par le confinement du Covid pour que les usines automobiles soient à l'arrêt en Europe. Il a suffi du Covid pour qu'en France, on manque de choses aussi basiques que des masques chirurgicaux du paracétamol.
Oui.
Bon, donc la fragilité. Et en même temps, on a vu que ces soldats du deuxième rang qu'on voit pas, les caissières de supermarchés, les gens qui font du tri dans les entrepôts, les chauffeurs de camions, finalement, la logistique d'approvisionnement a fonctionné. Et pendant le Covid, elle a très bien résisté, elle a su s'adapter, elle s'est montrée résiliente, comme on dit, c'est le mot à la mode, et elle a montré son efficacité, sa capacité à faire face à des crises.
Mais il y a une vulnérabilité. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité parce qu'on est toujours, comme on dit, à flux tendu, que les stocks sont dans les camions, par exemple, on ne stocke plus rien. C'est difficile même d'aller dans une boutique aujourd'hui et d'avoir du stock, même pour le client.
Oui, vous avez raison. Et la crise a été l'occasion d'en prendre conscience. Pour employer une formule un petit peu imparfaite, j'ai dit qu'on a trop optimisé. Théoriquement, on n'optimise jamais trop, mais les flux sont trop tendus. Donc, il faut rétablir des mécanismes de précaution. Au lieu d'avoir un seul fournisseur, on essaie d'en avoir deux ou trois. De temps à autre, on remet un peu un stock tampon pour la sécurité. On essaie de trouver aussi parfois des sources d'approvisionnement moins lointaines. Donc, avoir des chaînes d'approvisionnement moins fragiles, et pas une seule chaîne, mais en avoir plusieurs pour répartir les risques. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y a un certain retour en arrière. Pour autant, la mondialisation demeure, les échanges à très longue distance restent, ne diminuent pas. Et donc, on a aussi une logistique tout à la fois mondiale et locale, avec le e-commerce à toutes les échelles géographiques.
Michel Savy, est-ce que la logistique est le grand coupable du réchauffement climatique ? Parce qu'avec l'effondrement du prix du fret maritime, en fait, on peut délocaliser maintenant partout. Et finalement, si les prix étaient beaucoup plus élevés, on relocaliserait mécaniquement, non ?
Non.
Et ça serait bon pour le climat, comme on dit.
Alors, je suis d'accord et pas avec votre question. Premièrement, oui, en Europe notamment, le transport en général est la première source d'émissions de gaz à effet de serre avec la production d'électricité, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'on a une électricité décarbonée. Et dans le transport en général, pour l'instant, les passagers, c'est les deux tiers, et le fret, c'est un tiers. Donc le tiers, disons que le fret, en France, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas 90%, c'est pas la faute aux camions. Pour autant, si on veut tout décarboner, il faut pas oublier le transport. Donc, vous avez raison. Alors, quant à l'exemple du transport maritime, le transport maritime est remarquablement efficace sous l'angle énergétique. Dans un porte-conteneur qui peut porter jusqu'à 20 000 boîtes, vous vous rendez compte, le coût énergétique est très faible. Et d'ailleurs, le coût total, un conteneur Shanghai-Le Havre, c'est le même prix que le conteneur Le Havre-Paris.
Et comment ça se fait, ça ?
Ben parce que un énorme bateau a des économies d'échelle extraordinaires. Et faire voguer un bateau sur l'eau, le frottement est moindre, et donc la dépense d'énergie par boîte transportée, ou par t-shirt transporté dans le conteneur, est bien moindre que par le transport routier. Quand dans un conteneur, vous mettez 10 000 t-shirts, vous pourrez augmenter de 10, 20, voire doubler le prix de l'énergie. Ça ne ramènera pas, hélas peut-être, la fabrication des t-shirts à Roubaix-Tourcoing comme il y a 50 ans.
Le Havre, premier port français en
oui.
termes de conteneurs.
Oui.
Pourquoi les grands ports français sont-ils petits par rapport à Barcelone, à Algeciras même, dont on parle peu, ou bien sûr les ports, grands ports du Nord, les ports hanséatiques, Hambourg en particulier?
Ben, d'abord, effectivement, les voisins immédiats et les concurrents des ports français, en tout cas je parle du Havre, sont parmi les meilleurs au monde, donc on doit concourir dans la cour des champions. Et puis les ports français ont certaines faiblesses, par exemple, on ne parle pas que du port, mais aussi sa desserte terrestre. Le Havre est un port qui utilise peu la voie d'eau et peu le chemin de fer, par comparaison avec Anvers ou Rotterdam, par exemple. Et puis, on a à peu près résolu la question sociale dans les ports. On parlait toujours des grèves des dockers, il y en a beaucoup moins qu'auparavant.
Ouvriers d'État qui ont un pouvoir monopolistique ?
Oh, ils ne sont plus ouvriers d'État maintenant, mais effectivement, il y avait un réel corporatisme ou une force syndicale du côté... Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Du côté de la manutention et autres, il y a aussi des monopoles locaux qui font qu'il y a des rentes de situation dont tous les opérateurs économiques, et pas seulement les dockers, ne sont pas prêts à se défaire. Bon. Mais c'est vrai que, du coup, deux grands armements internationaux continuent de desservir le Havre, mais n'en font plus un hub, c'est-à-dire un lieu de transbordement de bateau à bateau. Par contre, CMA-CGM, par exemple, maintient son choix de faire du Havre un de ses principaux points de transbordement.
Michel Savy, on a construit des ports pour accueillir le gaz de schiste américain, et oui. Donald Trump veut que nous en achetions davantage.
Oui.
Ça a des conséquences sur la logistique, nos relations avec les États-Unis, comment les voyez-vous, s'il y a des droits de douane et s'il y a davantage d'importations énergétiques?
Alors, s'il y a davantage d'importations énergétiques, il faudra s'adapter. Il faut que je n'ai pas fait l'inventaire des capacités et de transport et de stockage et de regazification du gaz liquéfié que l'on importerait. Donc, il faudra s'adapter. Mais je pense aussi que s'il y a plus de droits de douane, il y aura moins d'échanges. Donc, on va avoir des réaffectations. Certains secteurs seront en surcapacité, d'autres secteurs seront en sous-capacité de transport, de stockage, de manutention. Là encore, la logistique devra faire face à des transformations.
Il y a un enjeu majeur en France, hein, c'est la transformation de la plateforme industrielle de Foss près de Marseille.
Oui, par exemple, les grands ports français sont aussi, d'ailleurs, tout comme Anvers ou Rotterdam, et en tout cas c'est le cas de Marseille-Foss, des plateformes industrielles. Et ce sont des lieux d'émission de gaz à effet de serre parmi les plus importants. Et donc il faut les traiter en priorité. Et il y a un très grand projet, plus qu'un projet, d'électrification, si j'ose dire, de l'industrie de la plateforme de Foss-sur-Mer. Encore faut-il approvisionner en électricité pour se substituer à l'utilisation du charbon pour de l'acier, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut obtenir qu'on tire une ligne à haute tension pour alimenter cette zone en électricité dont elle a besoin.
Il y a de grands acteurs, Michel Savy, dans ce domaine de la logistique. On a cité CMA-CGM. Il y a aussi un Allemand, DHL, qui a un chiffre d'affaires important par rapport à des concurrents américains. On est plutôt pas mal placé à l'échelle européenne.
Oui, il y a plusieurs grands opérateurs européens qui sont de taille mondiale. Et effectivement, DHL, à l'origine, c'est un opérateur de courrier express international. Il y a déjà un certain nombre d'années, c'est la Poste allemande, la Deutsche Post, qui l'a racheté et qui, sous cette étiquette commerciale, fait beaucoup plus que du courrier express. Elle fait toutes sortes de logistique, y compris des transports lourds. Et son chiffre d'affaires est effectivement plus important que celui d'UPS et FedEx. UPS et FedEx, d'ailleurs, étant des boîtes américaines, encore très fortement américaines. Elles sont présentes à l'échelle internationale, mais une grosse part de leur activité reste interne à l'Amérique, alors que DHL est plus internationalisé en quelque sorte. Donc effectivement, parmi les grands opérateurs logistiques mondiaux, il y a plusieurs grands Européens.
Quel est l'enjeu principal, puisque c'est rare qu'il y ait des réflexions qui amènent le grand public à s'interroger sur cette question de la logistique, et c'est la raison aussi pour laquelle je vous ai invité, c'est justement qu'on en parle assez peu. On a dit que la logistique, c'est à la fois le stockage et le transport. Il y a aussi des cartes, une carte dans votre ouvrage qui est particulièrement éloquente sur le réseau SNCF depuis la fameuse étoile de Legrand en 1842, où il y avait énormément de voies ferrées en France, mais il n'y avait pas encore la voiture. Et maintenant, c'est la peau de chagrin.
Oui, absolument. Le maximum, l'acmé du réseau français, c'est après la Première Guerre mondiale, les années 1920, où tout, disait-on, tout chef-lieu de canton avait une gare, et donc une voie de chemin de fer, souvent une voie étroite à une voie métrique, mais ça marche très bien. Et puis avec l'ascension de l'automobile et l'équipement des ménages, et les gens aussi ont commencé à habiter moins loin, plus loin des gares, et donc ne peuvent pas s'y rendre aussi commodément. Une grande partie du réseau français a été fermée. Et ça n'est pas récent. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale que la grande majorité des fermetures se sont prolongées après. Mais dès les années 30, ce réseau commençait à se résorber. Et aujourd'hui, le réseau de chemin de fer n'a plus la vocation à couvrir le territoire comme il le fit il y a un siècle. Il y a un siècle. Puisque maintenant, c'est l'automobile. Et quand on vit à la campagne ou dans des petites villes, dès lors qu'on peut conduire, quand on n'est pas ni trop jeune, ni trop vieux, ni malade, la plupart des gens ont une auto.
Mais est-ce qu'on a manqué de vision à long terme là-dessus? Il aurait peut-être fallu le maintenir pour avoir des considérations peut-être écologiques aussi supérieures?
Ah ben, on n'en avait pas encore l'idée. Hein. L'écologie n'était même pas... la prise de conscience est beaucoup plus récente. Mais effectivement, et les besoins en infrastructure ferroviaire restent importants, mais ne consisteront pas à reconstruire le réseau de naguère. Le chevelu, puisqu'on parlait du capillaire des chevelus, n'est-ce pas ? Ces cheveux-là ne repousseront pas. En revanche, on a doublé le réseau traditionnel par un réseau de quelques lignes à grande vitesse, mais qui à elle seule transporte la moitié des voyageurs français quand on compte en voyageurs kilomètres. Et il faudra construire des voies de chemin de fer, mais autour des ou à l'intérieur des métropoles. Faire des RER régionaux comme, ou métropolitains, comme on le dit, ce qui ne sera pas facile, parce que faire passer une voie de chemin de fer dans un ensemble urbanisé, c'est coûteux, difficile à accepter pour les riverains.
Michel Saville, les prix du TGV ont encore augmenté. Pourquoi est-ce si cher de se transporter en France? Ça devient un luxe?
C'est cher, c'est incontestablement cher, parce que d'abord, je rappelle que le TGV n'est pas un service public. C'est un service commercial exercé majoritairement par une entreprise publique, la SNCF, mais qui désormais a deux concurrents, la Renfe espagnole sur certaines lignes et Trenitalia italien sur d'autres lignes. D'autres concurrents pourraient arriver. La SNCF a tort ou a raison, peut-être avec des erreurs de prévision, à diminuer la flotte de trains à grande vitesse dont elle disposait. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, quand on construisait la ligne Tours-Bordeaux, la SNCF protestait parce qu'on allait lui obliger à faire passer beaucoup de trains et elle disait à chaque train qui passe, je vais perdre de l'argent. Le résultat de cette erreur d'analyse, c'est qu'aujourd'hui, les TGV sont blindés. Et donc, quand on a un monopole qu'on a saturé, eh ben, on peut augmenter les prix et voyageurs gagnent de l'argent avec les TGV et d'ailleurs on consacre une bonne partie à la modernisation de la voie. Voilà l'explication.
Merci beaucoup Michel Saville. Autour de ces nouveaux enjeux de la logistique et autres considérations que l'on peut avoir sur les transports, c'est aux éditions Adil Jacob. Je rappelle que vous dirigez notamment l'Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe.
Merci beaucoup Louis Dauphren. Merci Michel Saville d'avoir été le grand témoin ce matin.